Bonsoir tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel psaume ce cantique ou ce chœur qu'on vient de chanter est-il tiré? Le psaume 46, verset 5. Presque tous les cantiques, parce que des fois on dit mais on a chanté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est un verset biblique qui est mis en musique. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 20, les apôtres, en particulier Pierre, va intervenir. Et Jésus va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez envie d'avoir une grande foi? Pourquoi voudriez-vous une grande foi? Plaire à Dieu, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Encore, pourquoi voudriez-vous avoir une grande foi? Pour résister, oui, à l'ennemi, oui. Pour résister aux attaques du diable, oui. Pour servir Dieu, oui, très bien. Pourquoi voudriez-vous avoir une grande foi? Pour avoir de grandes victoires? Oui, la foi chrétienne, oui, ça tient debout. 1 Jean, chapitre 5. Encore, pourquoi voudriez-vous avoir une grande foi? Pour être sauvé? Non, il ne faut pas. C'est pas la peine d'avoir une grande foi pour avoir la vie éternelle. Il faut avoir la foi, tout simplement. Parce qu'il y a quand même la foi, et il y a quand même la grande foi. Il y a le don de foi. Alors lisons ce texte. Pour avoir la vie éternelle, non, il faut juste croire de tout son cœur que Jésus est mort pour nous, sur le bois de la croix. Marc chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Quatre mots. « Ayez foi en Dieu, c'est pas une prédication de 2h30, c'est quatre mots. Ayez foi en Dieu. Bon, il y a un petit commentaire sur la prédication. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au verset 25, il y a une conjonction de coordination donc qui explique que quand même, il faut tenir compte de la suite. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, debout ou assis, ou à genoux, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc, Jésus a chercher des figues sur un arbre et il n'y en avait pas. Jésus a maudit le figuier. Est-ce que Jésus était en colère contre cet arbre? Est-ce que vous croyez qu'il y a une leçon derrière spirituelle? Bien sûr que oui. Vous savez que le figuier est l'emblème d'Israël. Ça préfigurait, ça annonçait qu'Israël ne portait pas de fruits et qu'ils allaient subir la malédiction du Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé en l'an 70 où le temple a été détruit, etc. La diaspora, etc. Et là, Pierre, le lendemain, il est bouleversé, il dit, c'est pas possible, regarde, le figuier est sec. Et Jésus ne va pas parler de son autorité, de son pouvoir, il va les amener à comprendre qu'eux aussi peuvent faire des expériences qui correspondent, bien sûr, au plan de Dieu. Et il leur donne ces quatre mots qui devraient nous suffire pour faire les expériences que Dieu veut que nous fassions, parce que s'il y a des expériences qu'on pourrait vouloir faire qui ne servent à rien, je pense qu'on peut demander à Dieu des choses qui sont inutiles, oui ou non? Il y a des choses que je pense qu'on ferait mieux de ne pas les demander. Mais il y a des choses que Dieu veut que nous vivions. Et le Seigneur Jésus dit, ayez foi en Dieu, cette affaire, elle était sérieuse, cette affaire du figuier séché devait amener le Seigneur à enseigner ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Jésus parle des montagnes. Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, c'est les obstacles, les gros obstacles que nous pouvons rencontrer. Avez-vous déjà rencontré des obstacles? En rencontrerez-vous d'autres? Oui, Dieu peut permettre qu'il y ait des montagnes qui se présentent devant votre vie. Les montagnes, il faut que nous apprenions à les déplacer. C'est exactement ce que Jésus est en train d'enseigner. L'homme, il doit vivre par la foi, par la confiance. On peut être dans une église et ne pas avoir la foi. On peut croire en Dieu et ne pas avoir foi en Dieu. Déjà, ils croient en Dieu. Ils ne doutent pas de l'existence de Dieu, mais ils ne lui font pas confiance. Mais comment on peut croire dans l'existence de quelqu'un et ne pas lui faire confiance? La confiance, ça se gagne, la confiance. Oui ou non? Quelqu'un me disait ce matin, voilà, moi je comprends pas, moi je veux que la personne ait confiance de suite en moi. Mais je dis, mais vous croyez que les gens ils font confiance comme ça? Ça se gagne, la confiance. Oui ou non? Non, il faut du temps pour gagner la confiance. Comment vivez-vous votre foi? Est-ce que vous vivez dans la crainte, dans le doute? C'est drôle parce qu'on voit des chrétiens qui vivent avec une foi vivante, d'autres qui ont une foi mixée avec des doutes, de la crainte, et c'est un problème ça. Parce qu'il y a des problèmes, justement. Donc la foi peut être perturbée. Est-ce que votre foi, elle est mitigée parce que justement vous êtes entouré de gens négatifs? Est-ce que ça peut arriver d'être entouré de gens négatifs? De travailler avec des gens pénibles. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être entouré de gens difficiles? Est-ce que ça peut arriver? Eh oui, ça peut arriver. Donc tout ça, ça peut affecter. On pourrait mal multiplier les choses dans le domaine du visible, mais dans le domaine de l'invisible aussi. Vous savez, le diable, c'est un voleur. Là, Jésus le catalogue comme étant un voleur. Donc il cherche à détruire également notre foi. Le but du diable, c'est toujours le même. C'est de détruire, de nous éloigner de Dieu. Ce soir, nous sommes là pour que nous apprenions, que nous réapprenions à nous approcher du Seigneur. Le Seigneur, il fait des promesses. Si vous lisez la Bible, vous observerez que régulièrement, Dieu fait des promesses. Pourquoi Dieu fait-il des promesses? S'il fait des promesses, c'est pour qu'elles s'accomplissent. Ça, il faut bien le comprendre. S'il a fait des promesses, ce n'est pas pour lui. Il les a faites pour nous. Si Dieu ne voulait pas les accomplir, je peux vous dire qu'il ne les aurait pas faites. Si vous connaissez Dieu, vous savez que ça tient debout. Les hommes font des promesses. Nous sommes en pleine campagne électorale. Laissez-moi vous dire que si vous avez suivi certains débats, vous avez entendu que les hommes font des promesses. Est-ce qu'ils pourront les tenir? Mais non. Et ce n'est pas une question de les juger, ce n'est pas une question de les critiquer. C'est une question de dire que l'homme, lui, il fait des promesses, mais il ne peut pas les tenir. Tandis que si Dieu, lui, il fait des promesses, c'est pour les accomplir. Des promesses de grâce, de guérison, de salut, de paix, des promesses de restauration, de consolation. Enfin, quelqu'un a dit que dans la Bible, il y avait au moins 32 500 promesses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne les ai pas toutes comptées. Voilà, j'ai lu ça dans plusieurs livres, qu'il y avait au moins 32 500 promesses dans la parole de Dieu. Donc, les promesses, il faut les croire. Il faut les croire, il faut croire ce que Dieu veut nous donner. Alors, cette histoire, elle est là. C'est extraordinaire. Jésus n'a pas dit, vous savez, moi, je suis le Fils de Dieu, bien sûr que je vais vous enseigner certaines choses, etc. Non, ayez foi en Dieu. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous aurez une foi saine. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de saisir un enseignement de la parole de Dieu. Vous avez droit à avoir une foi saine, une foi vivante. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un, ça représente qui? Tout le monde. N'importe qui. N'importe qui. C'est pour vous. Vous pouvez être sûr que cette bénédiction, elle est également pour vous. Jésus veut voir dans votre vie cette foi. Parce qu'il voit le Seigneur si vous avez la foi. Il le voit. Est-ce qu'on est obligé de le lui dire au Seigneur? Tu vois, j'ai la foi. Est-ce qu'il le sait, le Seigneur, si vous avez la foi? Et oui, il le voit. Il veut que vous puissiez regarder ces montagnes qui sont là devant vous et que vous appreniez à les déplacer. Qu'est-ce qu'il faut dire à la montagne? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Cette montagne, est-ce qu'il y a une montagne devant votre vie? C'est un problème avec lequel vous vous débattez depuis... Pendant combien de temps on peut se débattre avec un problème? Un problème peut durer combien de temps? Une vie? Quelques jours? Quelques heures? Quelques semaines? Quelques mois? Oui? Quelques années? Est-ce que ça peut arriver qu'un problème dure des années? Oui, ça peut arriver. Et il y a des gens qui se débattent avec des problèmes et ils n'arrivent pas à avoir cette victoire. Bon, il y a certains, ils prennent des taupinières pour des montagnes, c'est vrai. Mais remarquez, si vous êtes le nez collé sur une taupinière, c'est déjà une certaine forme de petite montagne. Vous êtes d'accord? Si vous voyez que ça, c'est clair. Si vous êtes détaché de cette taupinière, c'est clair qu'elle deviendra de plus en plus petitesse. C'est un petit peu comme ça avec certains problèmes. Mais Jésus nous avertit qu'il faut prier avec foi. Les montagnes, il faut apprendre à les déplacer. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Moi, je le vois, il y a des chrétiens qui se traînent des tonnes de problèmes. Ils se conservent leurs montagnes comme si c'était la volonté de Dieu, qu'elles soient là, qu'elles les empêchent d'avancer. Non, ça ne peut pas être la volonté de Dieu que les montagnes ne soient pas déplacées. Dieu peut permettre des montagnes. Ça, c'est clair. Il en parle, c'est évident. Mais il nous demande d'avoir une foi vivante, d'avoir la foi en Dieu, de ne pas avoir foi dans vos prières. Un jour, il y avait une personne dans l'église qui priait fort, à tel point que c'était même désagréable. Mais il y a un chrétien qui m'a dit « Oh, ce frère, qu'est-ce qu'il a la foi ?» Et j'ai dit « Ah bon, pourquoi ? Vous avez vu comment il prie ?» J'ai dit « Mais c'est pas parce que quelqu'un prie fort qu'il a la foi. » « Si, 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 il est dit, si quelqu'un crie à Dieu. » Vous savez ce texte dans Luc 18 ? Mais crie à Dieu, ça peut dire qu'il faut parler fort. Sinon, moi, je peux vous dire que si c'est ça, avoir la foi, laissez-moi prier. On va s'y mettre. J'étais là, s'il te plaît. Non, mais je veux dire, c'est ridicule, vraiment. Là, le cri de la foi n'a rien à voir avec les décibels. Le cri de la foi, c'est une foi qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que ma foi est plus forte que mes doutes, plus forte que mes craintes, plus forte que mon incrédulité, etc. Et le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens, ne priez pas comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il nous enseigne surtout à mettre notre confiance en lui. Ce ne sont pas tellement les paroles, vous savez, qui sortent des lèvres. Parce qu'on peut formuler de belles prières, on peut prier avec beaucoup plus de tact, de tonalité, de décibels. C'est pas ça. Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Lise-le avec moi, parce que la clé, elle est dedans. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur. Ce qui l'intéresse, c'est la foi qui nous fait parler. Mais en vérité, c'est ce qui se passe d'abord dans le cœur. Et c'est ça qu'il faut que vous saisissiez, c'est ce qui se passe dans le cœur. S'il ne doute pas dans son cœur, ce n'est pas tellement ce que l'on dit et la quantité de mots que l'on utilise, c'est ce qui se passe vraiment dans notre cœur. Est-ce que vous croyez que Dieu peut déplacer les montagnes ? Dieu regarde au cœur. Ce soir, Dieu regarde dans votre cœur. Est-ce que vous croyez que Dieu a le pouvoir de vous faire faire des expériences par rapport à vos problèmes, quelle que soit la taille des problèmes que vous rencontrez. Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux, croyez-moi, nos oreilles et notre cœur, pour que l'on saisisse vraiment ces choses. Parce qu'il ne dit pas « ayez foi en votre dénomination ». Est-ce que c'est bien d'être dans une bonne dénomination ? Est-ce qu'il y en a de bonnes dénominations ? Est-ce qu'il y a de bonnes églises ? Est-ce qu'il y a de bons pasteurs ? Comment non ?
Je parlais pour moi.
Ah, d'accord. Ouais. Mais seriez-vous dans une dénomination qui ne croit plus au miracle ? Seriez-vous dans une église qui boite ? Auriez-vous un pasteur qui ne tient pas trop debout ? Bon. Hein ? Est-ce que vous croyez vraiment que malgré ces déficiences, vous pourriez quand même faire confiance à Dieu ? Eh oui, c'est ça. La foi, c'est ça. Lorsque Jésus prêchait, les gens réagissaient. Il voulait communiquer cette bénédiction. Dieu veut que vous appreniez à déplacer les montagnes. Peut-être que vous n'avez aucune assurance, peut-être que vous êtes tout le temps entouré de gens qui doutent. Ça peut arriver, il y a des gens qui vous disent « Moi j'en ai assez, je ne suis entouré que de gens qui doutent. » On vit dans un monde où il n'y a presque que des incroyants. Mais ne vous faites pas berner par les gens qui sont négatifs. Est-ce que vous êtes influencé par les autres ? Est-ce que par rapport à votre vie spirituelle, vous êtes entouré de gens qui vous découragent ? Vous travaillez avec des gens, Eliezer, vous travaillez avec combien de personnes par jour ? Une vingtaine. Est-ce qu'ils sont chrétiens tous les 20 ? Non. Est-ce que leur incrédulité vous perturbe ? Non. Mais il y a des gens, ils diraient oui. Je travaille avec une vingtaine d'inconvertis, ça me perturbe, ça me décourage. Voilà. Heureux êtes-vous, Eliezer, si vous n'êtes pas perturbé, je le pense, par la vingtaine d'inconvertis qui travaillent autour de vous. Et il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui perdent la foi à cause du fait qu'ils sont mal entourés. La foi que Dieu demande, c'est une foi qui ne tient pas compte des circonstances par rapport avec les gens avec qui vous travaillez. Les doutes peuvent venir de l'entourage. Les doutes peuvent venir de votre incrédulité. Bien sûr, quand vous regardez une montagne, c'est impressionnant, une montagne. C'est impressionnant. Plus vous la regardez, plus vous dites, mais peut-être il faudrait mieux la contourner. C'est peut-être plus facile de la contourner que de la déplacer. Et il y a des gens qui ont appris toute leur vie à faire du slalom entre les montagnes, mais ils n'ont jamais appris à déplacer les montagnes. Dieu veut que vous déplaciez les montagnes. Bien sûr que c'est quand même lui qui le fera. Mais ça dépendra de votre foi. Ne chassez l'incrédulité. Vous savez, vous avez vu Thomas qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il a vu tout ce que Jésus a fait. Et pourtant, il caractérise les gars qui ne croient que ce qu'ils voient. Est-ce que vous devez absolument voir pour croire? J'espère que non. Vous pouvez croire sans voir. Si Dieu vous dit qu'il va vous aider, il va vous aider. Je crois que vivre par la foi exige que nos pensées soient continuellement renouvelées. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vous savez, la foi qui grandit, puisque la Bible parle d'une grande foi, elle ne grandit pas comme ça, mécaniquement, automatiquement, de manière magique. Elle augmente au fur et à mesure que l'on prend le temps de lire la parole de Dieu. Jésus n'a pas formé les 12 apôtres en 3 semaines, il les a formés en 3 ans et demi. Alors, la foi accepte les problèmes. Jésus n'a pas dit, vous n'aurez plus de problèmes. Dans la Bible, vous ne voyez que ça, Dieu en train de régler des problèmes. Dès que Dieu a créé l'homme, il a fallu que Dieu règle les problèmes. De la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez qu'une chose, Dieu réparait les problèmes. Je peux vous assurer que Dieu, c'est un spécialiste pour régler les problèmes. C'est pas vrai? Oui ou non? Dieu fait que ça. Il est le réparateur des brèches, mais c'est une vérité. Alors il s'y entend et croyez-moi, il veut vous aider. Alors c'est vrai que les doutes viennent de notre incrédulité, les doutes viennent parfois des gens négatifs qui sont autour de nous, les doutes peuvent venir de Satan parce qu'il fait tout. Il fait tout pour nous tromper. D'ailleurs, il s'appelle le trompeur. Il essaye toujours de nous troubler, de mettre des pensées négatives. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que cette promesse, je peux la croire? Est-ce que je suis assez bon pour que Dieu me bénisse? Combien de gens parlent encore comme ça? La religion du mérite. Ça, c'est sûr que le pays, en France, une certaine religion a enseigné la religion du mérite. La religion du mérite, ça n'existe pas. Mais les doutes viennent avec cette pensée, peut-être si j'étais meilleur, peut-être que Dieu m'exaucerait. Il n'y a pas des gens qui le pensent, ça? Qui méritent la bénédiction? Oui, peut-être que je n'ai pas la foi. Est-ce que vous avez la foi, au fait? Tiens donc, est-ce que Dieu aurait créé des gens avec la foi et d'autres sans la foi? Et non. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Mais c'est comme tout, on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. La Bible dit que Satan, c'est l'accusateur des frères. Vous savez, c'est bien la culpabilité. C'est bien la culpabilité. Quand on a commis un péché, est-ce que c'est bien la culpabilité? Ben oui, c'est bien. J'ai commis une erreur, je me sens coupable, je peux la réparer. Mais il y a la fausse culpabilité. Et ça, c'est grave. Des gens qui sont tout le temps en train de se culpabiliser, oui, peut-être que je n'ai pas fait ça, et j'aurais dû faire ci, et c'est à cause de ci, et c'est à cause de là. Écoutez, quand Dieu pardonne, il pardonne. Et vous ne devez pas douter du pardon de Dieu. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Et aucune pensée accusatrice ne vient du Saint-Esprit. Les pensées accusatrices, elles viennent de celui qui veut détruire votre foi. C'est pour ça que Paul dit que nous devons prendre par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Les pensées accusatrices, ça ne vient pas de Dieu. J'ai assez d'entretiens avec des gens pour me rendre compte que beaucoup s'imaginent que c'est de la culpabilité, de la vraie culpabilité. Mais il y a la vraie culpabilité, je le répète, et la fausse culpabilité. Moi, je bénis Dieu pour la vraie culpabilité. J'ai vraiment commis un péché, c'est très bien que je me sente coupable. Comme ça, je peux dire pardon au Seigneur, pardon à la personne que j'ai offensée. C'est extraordinaire, la vraie culpabilité. Mais la fausse culpabilité, c'est destructeur. Et vous devez savoir si quelque chose est fondé. C'est pour ça qu'en lisant la parole de Dieu, vous verrez si ce que vous pensez, ce sont des mensonges, des fausses accusations, des tromperies, etc. Oui, la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme. Et c'est pour ça qu'il faut connaître les promesses de Dieu. C'est important quand vous êtes face à une montagne, vous dites, ah, qu'est-ce que je sais des montagnes? Oui, Dieu veut que j'apprenne à les déplacer. Je prie pas en espérant que ça s'arrangera. Il n'est pas dit espérer que peut-être ça ira mieux. La foi, ce n'est pas l'espérance. C'est vrai qu'il y a la définition qui dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, ça n'a rien à voir avec l'espérance. L'espérance, si vous voulez, ça rend certain l'avenir. On dit, tiens, je ne m'inquiète pas pour du lendemain. Mais la foi, c'est croire maintenant. Maintenant, je crois que Dieu a le pouvoir de m'aider à me débarrasser de cette montagne. Cette montagne-là, devant ma vie, ce problème, ce n'est pas normal. C'est un truc qui n'est pas à sa place. Alors Seigneur, tu vas me faire grâce, tu vas m'apprendre à déplacer cette montagne. Ne baissez pas les bras. Vous savez, le découragement, c'est une affaire terrible. Dans la Bible, on voit que 10 hommes ont réussi à décourager toute une nation. 10 hommes. Que dans les lois de la guerre, si vous avez lu le livre du Lévitique, dans le loi de la guerre, si quelqu'un était découragé, il fallait qu'il s'en aille. Si un soldat était découragé, Dieu avait prévu l'affaire. Si quelqu'un est découragé, qu'il retourne chez lui. Et non, mais parce que si vous avez un soldat découragé dans une compagnie, je peux vous dire que c'est toute la compagnie qui va être découragée. Et veillez. Moi, je vous assure, je vous le dis, je ne suis pas obligé de vous le dire, mais je fais très attention aux gens découragés. Parce que je ne veux pas être influencé. Ça vous est jamais arrivé de passer une journée avec des gens tout le temps en train de se plaindre? Non, ça vous est jamais arrivé. C'est pas grave. Mais ça peut vous arriver. Ça vous arrivera peut-être un jour, peut-être que Dieu vous épargnera. Mais laissez-moi vous dire que ça peut se présenter de passer une journée avec quelqu'un qui est toujours découragé. Dieu ne veut pas cela. Et vous, est-ce que vous êtes une source de bénédiction pour les autres? Est-ce que vous aimez encourager les autres? Si vous êtes marié, est-ce que vous aimez encourager votre femme? Et vice-versa. Est-ce que c'est important? Si vous avez des parents, vous avez des parents, Lucas? Non, vous n'avez pas de parents? Non. Imaginez que vous ayez un père. Hein? Eh bien, est-ce que vous ne voulez pas être, vous aimeriez pas l'encourager? C'est important. Mais c'est important parce que c'est comme ça. Est-ce que c'est écrit? Prenez courage, exhortez-vous les uns les autres. Est-ce que ce que je vous dis est biblique? Eh oui, c'est comme ça qu'on apprend à prendre des victoires. Dans une église, c'est très important de veiller les uns sur les autres, de s'exhorter les uns les autres. C'est comme ça qu'on apprend à déplacer les montagnes. Oui, Dieu, il veut nous enseigner à déplacer les montagnes. Dieu a des richesses inépuisables. On l'a chanté, il est un fleuve, hein. Dans la présence de Dieu, c'est comparé à un fleuve, vous pouvez puiser ce soir la bénédiction du Seigneur. On relit ce texte, on le relit, juste pour conclure. Lisez-le avec moi, vraiment, lisez-le. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut parler à la montagne. Alors ça paraît un petit peu bizarre, hein? Mais moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu, de nos problèmes au Seigneur. Est-ce que vous avez honte de parler de vos problèmes à Dieu? Non. Tous les problèmes. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Ne doutez pas. Les montagnes, oui, elles peuvent y être. Oui, Dieu peut les permettre. Dieu peut les vouloir. Dieu peut les provoquer. Mais il ne faut pas qu'elles y restent. Voilà. Alors, peut-être ça fait 2 jours, ce n'est pas grave 2 jours. Peut-être ça fait 2 semaines, ce n'est pas méchant non plus. Mais déjà, dès qu'on commence à garder 2 mois, etc., et quand c'est des années, ce n'est pas une raison pour qu'elles s'y installent. Apprenez à déplacer les montagnes. Croyez ce que vous demandez. Et c'est Dieu qui la déplacera. C'est Dieu en fin de compte. Puisque la foi elle est en Dieu, c'est quand même Dieu qui finira par la déplacer. Et je termine avec ce texte, quand un jour les apôtres ont posé la question, mais comment n'avons-nous pas pu avoir cette victoire? Et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, c'est un autre texte, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Alors, vous la voulez cette foi vivante? Est-ce que vous la voulez cette foi vivante? Eh bien, méditez la parole de Dieu, ne doutez pas, ne vous laissez pas influencer par les autres. Faites attention aux fausses accusations, aux gens qui vous décourageraient. Soyez déterminés, connaissez les promesses de Dieu. Quand vous connaissez une promesse de Dieu, vous êtes infaillible quelque part, enfin, infaillible, vous êtes indestructible. Je termine avec ce témoignage. Il y a quelques années de cela, j'étais pasteur à Albi ou à Groyer, oui. Et il y a un monsieur qui voulait me tuer par des sorts et la sorcellerie. Vous savez que ça arrive, ça, qu'il y a des gens qui le font? Vous croyez pas, mais je peux vous dire. Et quand on me l'a dit, il y a un verset du Proverbe 26 qui s'est imposé à mon cœur, « La malédiction sans cause n'a pas d'effet ». C'est une promesse. Je l'avais lu 2 mois avant, 2 ans avant, je l'ai lu plusieurs fois certainement. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Et j'ai raccroché, et ça ne m'a absolument rien fait. Pourquoi? Parce que je connaissais une promesse de Dieu qui nous prouve que Dieu nous protège. L'importance de connaître les promesses de Dieu. Et si vous vous appliquez à lire la parole de Dieu, cette foi grandira. Et par sa grâce, vous déplacerez les montagnes. On ferme les yeux quelques instants. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle grâce de lire ta parole et de voir que tu veux nous enseigner à avoir une foi grandissante qui te permettra d'agir dans nos vies et avoir la grande joie de voir tous nos problèmes se déplacer. Nous le croyons, Seigneur. Alors aide-nous. Tu vois s'il y a encore de l'incrédulité, des doutes, du découragement, de l'accusation, de la fausse culpabilité. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. En 4 mots, tu as enseigné à l'apôtre Pierre comment faire pour que toutes ces montagnes disparaissent, d'avoir vraiment une foi vivante en toi. C'est toi qui bénis, c'est toi qui peux permettre que des montagnes se présentent, mais c'est toi également qui, par ta puissance, nous permet de les voir se déplacer. Seigneur Jésus, tu vois cet auditoire ce soir, tu savais qui viendrait, tu vois celui qui a une foi qui est en train de s'éteindre, une foi qui est en train de diminuer, une foi qui est dans la confusion. Donne-nous, Seigneur, à tous, de saisir cette foi vivante afin de faire toutes les expériences que tu voudras que nous fassions. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.